Chapitre 4. Henry James savait désormais sans l'ombre d'un doute qu'il avait affaire à un fou. Quelque chose avait poussé ce Sherlock Holmes, si c'était bien le Sherlock Holmes qu'il avait rencontré 4 ans plus tôt à la garden party de Madame O'Connor, jusqu'aux franges effilochées de la raison et au-delà. Cependant, la vérité, aussi diabolique soit-elle, n'en était pas moins simple. Le délire de Holmes, qui se prenait pour un personnage de fiction, fascinait Henry James et il désirait en savoir davantage. Il lui semblait que ça ferait une trame merveilleuse pour une nouvelle, impliquant, pourquoi pas, un écrivain célèbre qui en serait aussi venu à croire qu'il était l'un de ses propres personnages. Holmes avait commandé du cognac, un mauvais choix de l'avis de James après le champagne et un dîner tardif, que les deux hommes sirotaient, tandis que l'écrivain réfléchissait à la manière de poser ses questions. Soudain, une grande agitation s'empara de la terrasse couverte du café de l'autre côté de la piste de danse. Des dizaines de gens s'étaient levés, des hommes s'inclinaient, quelques-uns applaudirent. « C'est le roi de Bohême, » dit Holmes. Henry James se demanda s'il devait ménager le fou assis en face de lui, puis décida de n'en rien faire. « Il n'existe pas de roi de Bohême, monsieur Holmes. C'est le prince de Galles. » Il paraît qu'il dîne ici de temps en temps. Holmes, sans un regard de plus au groupe princier de l'autre côté de la salle comble, reprit une gorgée de cognac. Vous n'avez vraiment lu aucune des chroniques de Watson me concernant dans le Strand, n'est-ce pas, monsieur James? Avant que James ait pu répondre, Holmes poursuivit. L'une des premières nouvelles de nos aventures qu'il a publiées a supposé que John Watson soit bien le chroniqueur ou l'auteur de ses aventures, s'intitulait « Un scandale en Bohême » et racontait une affaire d'extorsion. Une ancienne prima donna de l'opéra impérial de Varsovie utilisait une photo compromettante pour faire chanter un membre très en vue d'une certaine famille royale. Watson, par souci de discrétion, a inventé le prince de Bohême dans une tentative maladroite de dissimuler la véritable identité du gentleman qui était, bien sûr, notre propre prince de Galles. C'était la seconde fois que j'aidais le prince à se sortir d'un mauvais pas. La première fois, je lui avais évité un possible scandale lié à une dette de jeu. Holmes sourit par-dessus le rebord de son verre de cognac. Il n'existe pas non plus d'opéra impérial de Varsovie. Watson faisait là de son mieux pour dissimuler l'opéra de Paris. Vous traitez les efforts de discrétion du docteur Watson avec un étonnant manque de discrétion, murmura James. « Je suis mort, » dit Sherlock Holmes. « Un homme mort n'a que faire de la discrétion. » James jeta un coup d'œil vers l'endroit où se trouvait le prince de Galles, au centre d'un cercle de dandys qui riaient et flagornaient. « Puisque je n'ai ni lu ni entendu parler du récit, de la chronique, de votre aventure, je peux seulement présumer que vous avez récupéré la photographie incriminante dont usait l'aventurière pour faire chanter le prince. En effet, et de la plus rusée des manières, précisa Holmes en éclatant de rire. Personne ne parut y prêter attention dans le vacarme du restaurant. Puis la femme me l'a de nouveau volée, laissant à la place un portrait d'elle encadré. En d'autres termes, vous avez échoué. Complètement. Lamentablement. Holmes prit une nouvelle gorgée de cognac. J'ai été tenu en échec par très peu d'hommes au cours de ma carrière, monsieur James. Jamais auparavant, ni depuis, par une femme. Le dernier mot avait été prononcé sur un ton de profond mépris. Tout cela a-t-il un quelconque rapport avec votre récente révélation selon laquelle vous n'êtes pas une personne réelle, monsieur Holmes? Son interlocuteur se frotta le menton. Je devrais sans doute vous demander de m'appeler Sigerson, mais ce soir, je m'en moque. Non, monsieur James. La vieille affaire du prince de Galles et de son ancienne maîtresse, qu'elle pourrisse en paix, n'a rien à voir avec les raisons qui me font penser que je ne suis pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, réel. Voudriez-vous connaître ces raisons? James hésita une seconde seulement. Oui, répondit-il. Holmes reposa son verre vide et croisa ses longs doigts sur la nappe. Comme beaucoup de choses dans la vie, tout a commencé par de simples conversations domestiques. Ceux qui ont lu les chroniques du docteur Watson dans le Strand savent, grâce à certaines informations biographiques qu'il a fournies, qu'en 1880, le bon docteur a été transféré du 5e régiment des fusillés du Northumberland, alors en mission en Inde, au 66e régiment d'infanterie du Berkshire. Le 27 juillet de la même année, il a été grièvement blessé pendant la bataille de Maiwand. Il a passé plusieurs semaines entre la vie et la mort. Il avait reçu une balle de Jezail, le long et lourd mousquet si souvent utilisé par les rebelles en Afghanistan, et le plomb avait fait de sérieux dégâts internes. Mais Watson a survécu, malgré la chaleur, les mouches et les soins médicaux rudimentaires. Au mois d'octobre 1881, il a été renvoyé en Angleterre sur le navire de transport de troupes Orontes. Je ne vois pas en quoi cela prouve ou infirme, commença Henry James. Patience, coupa Holmes, levant un long doigt pour intimer le silence à l'écrivain. La balle de Jezail l'avait atteint à l'épaule. Plusieurs fois au bain turc, ou le jour où nous avons dû nous dévêtir pour traverser à la nage une rivière au cours d'une de mes aventures, j'ai vu l'horrible cicatrice en forme de toile d'araignée. Mais Watson n'avait pas d'autres blessures de guerre. Henry James attendit. Un serveur passa et Holmes commanda 2 cafés turcs. Il y a 5 ans, reprit Holmes, en 1888, ce n'était cependant plus d'une blessure à l'épaule qu'il se plaignait, même par écrit, mais à la jambe. Ce pauvre homme ne pouvait-il pas avoir 2 blessures? Il a peut-être reçu la seconde à Londres au cours d'une de vos aventures. Une seconde balle de Jezail Afghan, tirée sur Watson à Londres, à mon insu? Cela paraîtrait très improbable, monsieur James. De plus, Watson n'a jamais été blessé par balle ou autre durant la moindre de nos aventures qu'il a racontées. Enfin, ce que je trouve des plus intéressants, la blessure originelle à l'épaule que j'avais vue, un terrible entrelac de cicatrices autour d'une entrée livide de balle, a purement et simplement disparu dès lors que Watson a commencé à évoquer, de vive voix et par écrit, sa blessure à la jambe.
Tout à fait étrange, dit James.
Il se demanda ce qu'il conviendrait de faire si ce Holmes Sigerson, presque certainement un patient échappé d'un asile d'aliénés, devenait soudain violent.
Et puis il y a la question des épouses du docteur Watson, reprit Holmes.
James se contenta de hausser un sourcil.
Il en a trop, précisa Holmes. Le docteur Watson était bigame?
Non, non, répondit Holmes en riant une nouvelle fois. Leur café arriva. Il était beaucoup trop amer au goût de James, mais le fou sembla l'apprécier. Elles apparaissent et disparaissent, comme si leur existence dépendait avant tout du besoin fictionnel de l'auteur de faire habiter ou non Watson avec moi dans nos appartements du 221B Baker Street. Et leur nom ne cesse de changer, presque au hasard, monsieur James. À un moment, c'est une Constance, à un autre une Marie, puis une femme sans nom, puis encore une Marie.
Les épouses ont tendance à mourir,
fit remarquer James.
C'est vrai,
Dieu merci, railla Holmes en hochant la tête. Mais dans la réalité, ça n'arrive pas sans préavis. Il y a une maladie, ou sinon une période de deuil observée ensuite par le veuf. Watson, béni soit-il, se réinstalle simplement chez moi et nos aventures reprennent, entre ses mythiques épouses. Henry James s'éclaircit la gorge, mais ne sut quoi dire.
Il y a aussi l'étrange question de notre lieu de résidence, poursuivit Holmes, pas découragé par l'ennui manifeste de son interlocuteur.
J'ai vécu, Watson et moi avons vécu, au 221B Baker Street presque depuis notre rencontre en janvier 1881.
En quoi est-ce un problème?
Quand j'ai commencé à avoir des doutes, puis qu'ils se sont multipliés au cours de l'hiver et du printemps 1890-1891, je me suis rendu au bureau cadastral où j'ai consulté les cartes les plus récentes de notre quartier. En 1891, soit 10 ans après notre installation au 221B, les bâtiments et habitations de Baker Street s'arrêtaient au numéro 85.
Incroyable, marmonna James. Mais surtout, poursuivit Holmes comme s'il n'avait pas entendu, c'est le caractère nébuleux, le manque de détails quotidiens, le vide. Des périodes entre les enquêtes qui me font douter de mon existence hors des pages de fiction. C'est comme si je n'étais vivant, réel, qu'au moment où je traite une affaire. Votre tendance à user de certaines drogues ne pourrait-elle pas expliquer cela ? Holmes rit et reposa bruyamment sa tasse dans sa soucoupe. Vous lisez donc mes aventures dans le Strand ?
Pas du tout, mais comme je l'ai déjà mentionné, certains de mes jeunes amis le font. Je me souviens les avoir entendus commenter vos fréquentes injections de cocaïne. C'est bien ça.
James se rappelait très bien la fascination d'Edmund Goss pour la dépendance de Holmes à cette drogue. Il avait donc soupçonné Goss d'avoir lui-même tenté l'expérience.
« Rien qu'une solution à 70%, » précisa Holmes en riant. « Assez insipide selon les critères d'un consommateur d'opium. Et depuis ma mort le 24 avril 1891, j'ai réussi à me guérir de cette faiblesse. »
« Très bien. Comment vous y êtes-vous pris ?»«
En la remplaçant par l'injection d'une substance beaucoup plus inoffensive du nom de morphine. Ces dernières semaines, j'ai découvert un substitut encore plus miraculeux et anodin, distillé par notre ami allemand qui a créé l'aspirine, Monsieur Bayer en personne. Une drogue sans accoutumance et sans effet secondaire que Bayer et ceux qui l'utilisent ont baptisé en référence à ses qualités héroïques.
« Oui ?» demanda James. « Elle s'appelle héroïne, et il me tarde d'en trouver de plus grandes quantités, et à un prix inférieur. En Amérique, quand vous et moi irons là-bas la semaine prochaine. La morphine s'est vendue en abondance dans les rues aux États-Unis, bien plus qu'en Angleterre, puisque des dizaines ou des centaines de milliers de soldats ont continué d'en prendre après la guerre de sécession, il y a 30 ans. À présent, cette héroïque héroïne, si elle n'est pas encore distribuée sur le marché, se répand de plus en plus. »
James regardait son vis-à-vis, les yeux écarquillés.
« Nous allons en Amérique ? Nous ? » ?»«
Nous partons à Marseille demain matin de bonne heure, et de là embarquerons sur un vapeur appareillant pour l'Amérique, » confirma Holmes. « Il y a là-bas, à Washington, un crime vieux de 7 ans que j'ai le devoir de résoudre, et il est de votre intérêt, intérêt impérieux, mon cher James, de m'accompagner. Ma conscience m'interdirait de vous laisser à Paris dans cet état mélancolique et peut-être encore suicidaire. Par ailleurs, ça vous plaira, il y a du neuf. L'affaire nous appelle aussi sûrement et inévitablement que votre prochaine nouvelle ou prochain livre appelle votre âme de créateur et votre plume d'écrivain. »
Holmes fit signe au serveur d'apporter l'addition et la régla, pendant que James restait assis là, les yeux toujours écarquillés et la bouche disgracieusement ouverte.